Mes frères et sœurs, la parole que nous venons d'entendre, la première lecture et l'évangile, sans doute qu'à l'écoute de ces paroles, vos cœurs ont dû battre. Quoi qu'il en soit, de toutes les façons, chaque fois que j'entends cet évangile, mon cœur se met à battre. Car en effet, je me dis, si le Christ n'avait pas été ce jour-là présent au temple, l'acte, l'attitude de cette femme serait tombée à jamais dans l'oubli. Et je me dis, heureusement que le Christ avait été présent. Quelquefois, nous nous plaignons à tort ou à raison parce que justement, nous avons posé des actes de générosité. Nous avons été solidaires envers les uns et les autres et les gens n'ont pas reconnu notre attitude. Les gens n'ont pas reconnu notre action. Et donc, à travers cet évangile, le Seigneur nous rappelle qu'aucun acte de charité, si minime soit-il, ne sera tombé dans l'oubli. Je voudrais donc orienter notre méditation autour du geste peut-être insignifiant de cette pauvre veuve. L'évangéliste Saint-Marc d'abord essaye de nous rappeler le décor dans lequel se déroule la scène. Il montre que dans le temple, il y avait des gens bien habillés qui venaient faire leur offrande. Et dans cette foule, peut-être innombrable, se détache une figure, celle d'une veuve pauvrement vêtue au milieu d'apparats festieux et opulents. Elle s'avance timidement, peut-être le front plissé par les nombreuses rides que les dures années de labeur y ont creusées. Et pourtant, c'est sur ce visage brillant d'une douce lumière intérieure que se pose le visage du Christ pour l'immortaliser à jamais. Bien des siècles auparavant, au temps de la famine, une autre veuve, celle de Sarepta, avait aussi capturé le regard du prophète Élie par son humble offrande, une galette faite avec la dernière poignée de farine qui lui restait. Mes frères et sœurs en Christ, vous avez certainement compris comme moi que ce que ces deux femmes ont en commun dans leur geste de générosité, c'est la discrétion. Nous ne connaissons même pas leur nom. Il est probable qu'elles ne figurent pas parmi les bienfaiteurs du temple. Illuminées un instant par le regard attentif de l'homme de Dieu, elles retournent dans le silence de l'anonymat. Aux yeux des autres, leur geste est passé inaperçu, tant il semblait insignifiant. Il n'avait rien de l'éclat ou du prestige dont les riches aiment entourer leur générosité. Peu importe pour qu'elles soient vues ou non, car leur don n'est pas un moyen de leur procurer un peu de gloire ou d'honneur. Et pourtant, le geste d'offrande de ces deux veuves est de ceux qui construisent le royaume, qui font progresser l'humanité dans sa marche vers le salut. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ le propose en exemple. Il appelle ses disciples pour qu'ils observent le geste de cette femme. Pauvre d'argent, cette femme est riche d'humanité, elle est riche de bonté. Nous avons beaucoup à apprendre des pauvres, car ce sont eux qui nous enseignent le véritable don. Et Saint Vincent de Paul rappelait justement qu'heureusement, disait-il, qu'il y a des pauvres pour les pauvres. Eux seuls savent donné, disait Saint Vincent de Paul. Par leurs gestes, ces deux femmes nous apprennent, mes frères et sœurs, que nul n'est trop pauvre pour donner. Que nul n'est insignifiant pour Dieu. Car aussi pauvre que l'on soit, chacun possède devant Dieu le plus précieux des trésors que lui-même nous a donné, à savoir un cœur. Et quand celui-ci devient la mesure de notre don, alors notre pauvreté se transforme en une richesse incommensurable. Ces deux piécettes de la veuve que les préposés au trésor ont peut-être eu honte de comptabiliser dans les caisses du temple sont inscrites en lettres de lumière sur un autre livre. Et ce livre, il s'agit bien entendu du royaume des cieux. Là, elle rayonne de splendeur que confère au plus insignifiant des dons l'unique valeur qui transforme tout, c'est-à-dire le don de soi. Comprenons-le bien, mes frères et sœurs, et je tiens à le préciser, Jésus ne condamne pas ceux qui donnent leur fortune. Il ne jette pas le discrédit sur les grandes largesses comme si elles devraient être suspectes. Pas du tout. Il fait tout simplement remarquer qu'en donnant ce qu'elle avait pour vivre, et non le superflu, par amour pour Dieu, et non pour se faire admirer, cette pauvre veuve a touché le cœur de Dieu. Pour connaître la valeur d'un don, pour connaître la valeur du don que nous faisons, un auteur disait, on ne devrait pas regarder la quantité donnée, mais plutôt ce qui nous reste. De même, pour apprécier une offrande, il faut en examiner les motivations, car on peut donner à celui qui nous réclame. Tout à l'heure, en rentrant dans le métro, bon, on verra des gens qui vont nous réclamer quelques pièces d'argent. On peut aussi donner à celui qui ne réclame pas. Et c'est ici qu'intervient le sens de notre communauté, le sens de notre fraternité. On devrait pouvoir être attentif aux besoins des uns et des autres. Le paradoxe de notre vie réside précisément dans le fait que quelquefois nous sommes sensibles aux souffrances de nos frères humains qui sont situés à des milliers de kilomètres tout en ignorant ceux qui partagent la même parole de Dieu que nous, qui partagent le même corps du Christ que nous, qui prient avec nous dans le même groupe, qui partagent les mêmes moments de prière et que nous ne sommes pas souvent attentifs à leurs besoins. Que le Seigneur nous donne aussi cette largesse, cette attitude, cette vigilance de sentir le besoin qu'éprouvent ceux avec qui nous faisons communauté. On peut donner en espérant recevoir. On peut aussi donner sans rien espérer en retour. On peut donner ce qui nous gêne. Quelquefois, quand les choses, nous n'avons plus de place dans nos maisons, bon, on peut s'en débarrasser en faisant croire que nous sommes en train de donner. Mais aussi, on peut donner ce qui nous est utile. Voilà ce qui peut donner de la valeur à notre don. On peut donner ce qui humilie l'autre. Il y a quelques jours, quelqu'un partageait avec moi un fait. Il me disait, bon, il avait des trucs qui n'étaient pas bien. Alors, il a proposé ça à quelqu'un, à un mendiant, quoi, ceux qui sont dans la rue, là. Le monsieur lui a dit, non, moi aussi, je désire les bonnes choses. Ah, vous comprenez que, effectivement, on peut donner dans le but de s'en débarrasser. On peut aussi donner ce qui élève l'autre. On peut donner pour être vu. On peut aussi donner sans être vu. L'exemple de la veuve de l'Évangile. On peut donner pour s'imposer. On peut aussi donner pour servir. On peut donner par orgueil. On peut donner par habitude. On peut donner par lâcheté. Mais on peut aussi donner par amour. L'apôtre Saint Paul dit justement que tu as beau donner tout ton avoir, s'il n'y a pas d'amour, tout ce que tu as fait est vain. On peut donner pour le plaisir de donner. On peut aussi donner comme la veuve de l'Évangile et en définitive, se donner soi-même à l'exemple du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, en ce 32e dimanche du temps ordinaire, laissons-nous pénétrer par l'interpellation de notre Seigneur Jésus-Christ de ce jour, afin que nous fassions d'abord de notre vie comme une offrande agréable à Dieu. Que le Seigneur renforce nos liens de fraternité, nos liens de solidarité, et que nous puissions dire avec foi et confiance que nul, je me répète, nul n'est trop pauvre pour donner.